Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-Christine pour la lecture. Alors, vous avez vu une image déjà en avant-première, voilà, la voici. Alors, vous avez déjà certainement vécu une situation où, alors que vous êtes plongé dans l'angoisse, le stress, l'inquiétude, quelqu'un essaye de vous rassurer en déclarant « tout va bien se passer ». Qu'y a-t-il de plus insupportable, de plus irritant qu'une telle parole banale et maladroite? Quelle confiance accorder à quelqu'un qui, manifestement, ne perçoit pas l'état dans lequel vous êtes, et encore moins comment vous accompagner? Je me demande parfois si ce n'est pas un petit peu ce que les disciples de Jésus ressentent dans ce passage. Imaginez-vous, ils ont tout quitté pour cet individu qu'ils suivent depuis 3 ans, et même si leur intuition ne semble pas avoir été déçue, ils sentent bien qu'il va se passer quelque chose. Jésus leur annonce sa mort, de manière à peine voilée, en tout cas son départ. Jésus leur annonce une trahison au sein même du groupe qu'ils vivent en direct avec l'abandon de Judas, un petit peu plus haut dans le passage que Marie-Christine a lu. Ah, bien sûr, Jésus tente de les rassurer, il annonce son retour, il annonce l'envoi de l'Esprit-Saint, mais il leur donne aussi un peu mauvaise conscience, en leur disant qu'ils devraient se réjouir de ces annonces. Que penser vraiment de tous ces mystères? Comment digérer tous ces chamboulements quand l'avenir semble bien incertain? Et c'est dans cette ambiance déstabilisante que Jésus proclame, alors certainement avec tendresse, mais à la limite de la provocation, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Je vous propose donc d'explorer cette double déclaration de Jésus. Nous allions en premier lieu extraire le sens profond de ce terme, si équivoque, qu'est la paix. Puis nous irons à la découverte d'un paradoxe libérateur et pour terminer par la perspective ultime de notre existence quotidienne. Finalement, de quelle paix parle-t-on? La paix fait partie de ces mots difficilement définissables. Je suis sûr que si je faisais un sondage auprès de vous, pour la définir, nous aurions des résultats très différents les uns des autres. Est-ce une absence de conflit? Le contexte historique de notre passage est celui de la Pax Romana, de la paix romaine, certes contrat implicite entre Rome et ses provinces, mais très conditionné quand même à la loyauté absolue à l'empereur. Il s'agissait quand même d'un envahisseur de peuples occupés. Alors, selon certains, la paix est plutôt un état intérieur, une sérénité indépendante de tout élément extérieur, considérée comme une agression à notre être entier. Acquérir cette paix n'est effectué qu'au prix d'exercices mentaux et physiques continuels. La notion de paix évolue évidemment avec la société, et les gardiens de la paix d'hier sont aujourd'hui les forces de l'ordre. Et même le fameux adage « mieux vaut une bonne guerre qu'une mauvaise paix », finalement n'engage que celui à qui profite la prétendue bonne guerre. Il me semble donc incontournable de nous plonger dans le vocabulaire de Jésus. Jésus parle araméen, il emploie donc le terme « shlama » qui est dérivé de l'hébreu « shalom ». « Shalom » est un mot bien connu, aujourd'hui encore, en hébreu courant, on l'utilise pour se saluer. On l'utilise également comme un vœu de paix, à la manière des vœux qu'on souhaite à ses amis, à chaque changement d'année. Mais l'hébreu est une langue conceptuelle, et par conséquent, comprendre la double affirmation de Jésus nous oblige à fouiller beaucoup plus ce concept. Pour saisir l'origine du terme « shalom », il faut se représenter une pierre lisse, sans aucun interstice, une pierre absolument sans défaut. Cette notion évolue par extension en une muraille de pierre parfaite, puis logiquement, toute structure complexe, comportant de nombreux éléments indépendants mais formant ensemble une construction cohérente, harmonieuse, complète. Ce sens s'applique d'ailleurs autant au vivant qu'à l'inerte. Le shalom devient la composition d'un équilibre fragile mais achevé. Et de nombreux versets bibliques contiennent cette idée dans des domaines finalement très très différents. Par exemple, dans 1 Samuel 17, lorsque le jeune David s'enquiert de ses frères sur le champ de bataille, il s'enquiert en fait de leur shalom. Il est profondément préoccupé de leur état global dans une situation troublée. Alors, autorisons-nous une lecture synthétique du récit biblique à la lumière du shalom. Nous voyons clairement cette notion transparaître dès l'origine de la création. Le cosmos, la terre, l'écosystème sont des shaloms en soi, c'est-à-dire des systèmes extrêmement complexes, mais parfaitement harmonieux dans leur équilibre, tel qu'ordonné par l'intelligence de Dieu. L'autre shalom originel s'applique bien sûr à la création des humains, les relations entre Dieu et l'humain, entre Adam et Ève, entre ce premier couple et le reste de la nature, était l'accomplissement même du shalom d'un point de vue relationnel. Mais comme tout système dont les éléments forment un ensemble équilibré et complet, si l'un de ces éléments se casse ou simplement vient à manquer, c'est tout le système qui est déstabilisé, qui n'est plus en état de shalom. La structure vacille, voire s'effondre. Dès le début de la création, la fracture relationnelle, le doute, la peur de l'autre et finalement de l'autre avec un grand A sont d'autant d'éléments qui ont provoqué une résiliation du projet global originel. Le shalom, l'harmonie de tout le système était brisée. Néanmoins, une rupture fondamentale avec cette harmonie brisée est annoncée par le prophète Ésaïe. Et nous lisons Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. » Nous comprenons facilement que le prince en question n'est pas un chef de guerre signant un traité de paix à l'issue d'une bataille décisive. Il s'agit d'un souverain à la tête d'un royaume qui s'étend non par la guerre, mais par la justice et le droit. Il s'étend non seulement géographiquement, mais également temporellement, c'est-à-dire pour l'éternité. Ne peut-on pas y trouver les attributs du shalom, un royaume paisible et juste, contenu par une autorité paternelle affermie? Ce prince de shalom semble bien atteindre un objectif d'harmonie, de complétude, décorrélé du temps et de l'espace géographique. Alors oui, c'est bien certainement avec toutes ces notions à l'esprit, conscient qu'elles le concernent au plus haut point, que Jésus déclare « Je vous laisse le shalom, je vous donne mon shalom ». Afin de mieux contraster maintenant ces deux parties de phrase, je vous propose de considérer tout d'abord la seconde partie. « Je vous donne ma paix » ou « Je vous donne mon shalom ». Alors, ce qui est marquant d'emblée, c'est l'appropriation par Jésus de la paix. D'une part, il la donne, et d'autre part, il se l'attribue. Il parle de sa paix. Donner est un acte volontaire. On ne peut donner que ce qui nous appartient, enfin, normalement. Jésus mentionne donc ici son initiative propre envers l'humain. Il veut donner sa paix intentionnellement. Mais alors, de quel droit particulier Jésus aurait la légitimité d'offrir sa propre paix? Pour répondre à cette question, il faut, à mon sens, réaliser que cette phrase contient un double paradoxe. Jésus est conscient de la peur que les disciples peuvent ressentir en entendant ses paroles concernant les événements à venir, et il cherche à les rassurer en leur annonçant sa résurrection et l'envoi d'un consolateur. Mais il est également conscient qu'au moment où il parle, une partie cruciale de cette paix qui lui est propre n'est toujours pas acquise. Les disciples ne sont donc pas en paix, mais Jésus d'une certaine façon non plus. Dans son humanité, Jésus ressent une vive angoisse quant au moment qu'il s'apprête à vivre. L'apogée de cette angoisse est décrite d'une manière très explicite par les évangélistes, dont par exemple Matthieu 26, à partir du verset 36, là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané, et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qui trouvaient endormis et dit à Pierre « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi ?» C'est quand même le monde à l'envers. C'est Jésus cette fois qui demande à ses disciples de le soutenir dans son angoisse. Néanmoins, ce texte contient une dimension qui ouvre à Jésus la légitimité de pouvoir offrir une paix que le monde ne peut pas donner, c'est-à-dire que rien ni personne d'autre ne peut offrir, et cette dimension se trouve dans la deuxième partie du verset 39. « Mais ce que tu veux. Or, que veut Dieu si ce n'est réconcilier de manière définitive l'humanité à son amour vital ? En quelque sorte, recomposer avec l'humain déchu un shalom éternel. » Et, comme vous le savez, c'est Jésus qui va régénérer ce lien. Alors, il serait bien hasardeux d'interpréter les quelques notions succinctes qui évoquent le laps de temps entre la mort de Jésus et sa résurrection. Néanmoins, entre le texte que nous venons de lire et la résurrection, le sort de l'humanité est en suspension. Dès la fin de notre récit, une plongée dans l'abîme le plus absolu commence pour Jésus, jusqu'à être arraché à son Père comme foudroyé. Puis la grâce de Dieu le remonte de l'abîme, il est réunifié de nouveau lui-même dans le sens parfait du terme, c'est-à-dire absolument rempli de toutes les dimensions du shalom envers Dieu, envers lui-même et envers la création entière, y compris donc l'humanité. De ce fait, la mort est vaincue, espérance caractéristique de la foi chrétienne, ô combien merveilleuse et pas tout à fait irrationnelle, Jésus a gagné l'absolu de sa légitimité humaine en vainquant l'absolue menace envers la vie, c'est-à-dire la mort elle-même, frayeur d'ailleurs qui nous anime inconsciemment en permanence. Voilà la paix de Jésus, clé de la paix suprême, celle qui nous ouvre les portes de la vie régénérée, réconciliée, reconnectée au Créateur. Jésus ne propose donc pas d'offrir une paix stoïque, décorrélée de nos émotions et de nos craintes et de notre répulsion à tous face à la souffrance et à la mort. Non, sa paix est bien une paix acquise, conquise, obtenue à grand prix. Au prix, d'ailleurs, non seulement de sa vie physique en tant qu'homme, de sa vie psychique et morale soumise à l'humiliation, au discrédit, à l'injustice, mais également de sa séparation ou de l'abandon, pour reprendre ses propres termes, d'avec son Père. Quelle appréhension et quel risque, quelque part, pour Jésus de plonger dans cet inconnu-là. La paix assurément distinctive de Jésus ne consiste pas en un déni, une négation de la mort. Elle est le sceau non seulement de la fin de son emprise, mais surtout de son remplacement par la vie éternelle. Une nouvelle vie commence. Ce qui appuie une dernière notion propre au shalom, celle qui inclut la réparation, la réconciliation, le fait de vouloir restaurer ce qui est rompu et pas simplement d'arrêter de rompre plus. Vivre en shalom, c'est chercher à réparer ensemble. Simone Paco, une avocate et théologienne, résume bien, il me semble, cette paix unique qui appartient au Christ. La paix du monde, donc je cite Simone Paco, la paix du monde est souvent celle qui s'installe quand tout va bien, conception statique d'être le moins perturbé possible. La paix de Jésus est mouvement. Elle se vit au travers des risques de la vie, de l'accueil de l'inconnu, de la confrontation, de la relation. La paix que va recevoir celui ou celle qui vit dans la peur se construit au fur et à mesure de sa marche, de cette exploration de ses peurs, de ce va-et-vient pas toujours facile entre son passé et son présent, de cette descente souvent douloureuse dans son histoire, dans la réalité de son être et de sa vie. Fin de citation, je n'ai pas mis toute la citation sur le PowerPoint. N'est-ce pas ce mouvement que Jésus a vécu au-delà même de son existence terrestre de 33 années, explorant les douleurs de l'histoire entre l'humain et son créateur? En recréant tous les liens possibles, il s'acquiert toute la paix possible. Il recompose le shalom originel entre Dieu et chacun des humains. Cette paix que le disciple de Jésus veut recevoir ouvre alors une toute nouvelle perspective qui conduit à la première partie de la phrase « Je vous laisse la paix ». Alors, pour bien comprendre cette affirmation, mettons-nous dans une situation similaire à celle des disciples. Que penser d'une personne, de ce qu'une personne laisse à quelqu'un avant de partir, si ce n'est en quelque sorte un héritage? Or, tout héritage est teinté d'une certaine responsabilité, car bien plus que la simple mémoire de celui qui part, il est le support de la marque qu'il veut transmettre, de ce qu'il veut laisser de lui-même, de ce qui subsistera après lui, dans la société comme auprès de ses proches. Jésus laisse en particulier le shalom comme état de réconciliation et d'unicité à rechercher, à poursuivre, à s'approprier. Dans la nature, tout mammifère est en paix, à peu près, avec ses congénères, si son contexte de vie contient trois critères. Il a suffisamment de nourriture, il semble être le cas ici, il n'est pas blessé, et il n'a pas de concurrence sur son territoire. C'est aussi le cas, puisqu'ils sont quand même quatre à peu près ensemble. On peut assez facilement transposer ces critères à la paix selon le sens commun de l'humanité, organisée en société et généralement avec le matérialisme comme carburant de la paix. Mais toute philosophie la plus altruiste n'éclaire pas longtemps les peuples quand ils se trouvent dans la famine, dans la maladie ou dans la guerre. Or, Jésus nous passe un témoin. Il nous lègue une vision de la paix beaucoup plus contenante et implicative qu'un contexte idéal d'épanouissement de notre nature de mammifère. Il y a dans la Bible cette histoire étrange et peut-être choquante de Job. Il semble être le jouet de puissances qui le dépassent, voire même un peu de Dieu. Et pourtant, la conclusion du livre de Job est certainement l'une des plus profonde marque de paix entre Dieu et un humain, bien qu'exprimée en peu de mots. Je lis dans Job 42, à partir du verset 1. « Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » De merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts. De manière peut-être un peu plus subtile et peut-être aussi plus significative pour nous, je ne sais pas, Jésus rencontre un jour un homme qui dit respecter tous les commandements de la loi d'Adonai, de l'Éternel. Et pourtant, un manque intérieur le ronge. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et plus loin, que me manque-t-il? Ce jeune homme a tout d'apparence pour être en paix avec Dieu et avec lui-même. Il pourrait même être fier de sa conduite sans reproche et sûr d'une approbation bien méritée de la part de Dieu. Mais voilà, Jésus, qui veut le remplir de la paix, lui montre son manque. Je lis dans Matthieu 19, verset 21, « Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, » alors c'est-à-dire si tu veux connaître le shalom, si on transpose, « va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Que s'est-il passé dans la tête de cet homme ? Rien ne nous est dit, si ce n'est qu'il s'en est allé tout triste, expression que la restauration, que la paix, que ce shalom ne fut pas réalisé en lui, en tout cas à ce moment-là. Vous noterez qu'elle touche tous les domaines de sa vie. Il vient chercher une réponse concernant la paix de son âme avec Dieu, dimension relationnelle avec Dieu. Jésus lui montre que dans son cas, il ne pourra pas trouver cette paix sans considérer que le pauvre est son semblable, que son différent est son égal dans l'ordre créationnel de Dieu, dimension relationnelle à son prochain. Et il repart tout triste pour lui-même, dimension de son unicité fissurée, de sa propre humanité qu'il rend malheureuse. Aucune de ces trois dimensions ne sont en paix, sa relation avec Dieu, son estime de lui-même, sa relation au prochain et en particulier aux plus vulnérables. Le film Forrest Gump, que j'espère vous connaissez, parce qu'il y a une petite question à la fin dessus, contient une scène très singulière qui illustre, à mon sens, à l'inverse, l'esprit vertueux de la paix avec Dieu. Pendant la guerre du Vietnam, Forrest sauve la vie à son lieutenant, le lieutenant Dan, au prix néanmoins de l'amputation des jambes du lieutenant. Cet homme va vivre dans l'amertume, ne se définissant même plus comme vivant. Il en veut à Forrest Gump pour son geste et part à la dérive dans une vie désespérée. Mais quelque temps plus tard, Forrest Gump, qui pêche maintenant des crevettes sur son fameux bateau, la Jenny, y accueille le lieutenant Dan. Ils travaillent ensemble et réussissent ensemble. Le lieutenant trouve sa place dans cette vie qui ne l'a pas épargnée. Il la trouve en relation avec cet homme tellement stupide en apparence, mais tellement bienveillant, tellement bienfaisant. En bref, il remet en question la définition de sa paix intérieure, proche de celle du mammifère que je mentionnais à l'instant. Il la restaure non pas en niant son existence chaotique, mais en la connectant avec sa réalité. Et cette réalité est sublimée en acceptant d'être incluse dans celle de son prochain, en quelque sorte, en acceptant le geste de Forrest Gump pour qui sa vie était le plus important. Remarquez à nouveau la dynamique du shalom, un équilibre à faire patiemment cheminer. En prenant sa place dans la société, malgré son état physique diminué, le lieutenant Dan fait maturer son estime de soi. Alors, il remercie et s'excuse auprès de Forrest pour son mépris. Relation à soi-même, relation à l'autre, entre parenthèses, encore une fois, à celui qu'il estimait plus faible que lui. Mais tandis que le lieutenant se donne, pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui se souviennent de la scène, le lieutenant se donne un espace de pudeur en allant nager dans l'océan, vous souvenez-vous de la conclusion de Forrest Gump à ce moment-là ? Il va déclarer, pour moi en tout cas, une phrase extraordinaire de sensibilité et de lucidité en parlant de son ami. Donc je cite, « Je sais qu'à partir de ce jour, il a fait la paix avec Dieu. » À nouveau, notez la circulation relationnelle entre Dieu, entre soi-même et avec l'autre. N'est-ce pas la porte ouverte au shalom ? Décidément, la paix est bien une dynamique, jamais un état. Elle est cheminement perpétuel qui nous permet de rétablir ce qui est arraché, de reconnecter ce qui est dissocié, de faire dialoguer ce qui est silence. et ce, dans notre vie, dans nos relations, dans notre environnement. L'héritier de la paix de Jésus est un artisan, un maître d'art qui met en cohérence petit à petit ses convictions à ses actions. La paix de Jésus n'est pas donc preuve de foi, elle est pas de foi, pas après pas. Elle nous permet de nous éveiller au chemin où Dieu nous accompagne dans la simplicité de nos existences. Elle nous permet donc d'appréhender notre contexte de vie tel qu'il est. Et si vous me permettez d'utiliser l'image d'une partition de musique, la paix de Jésus est cette composition entre nous-mêmes et notre réalité, avec notre foi comme inspiration créatrice. Alors c'est certain que la portée de nos circonstances nous est imposée et est parfois terrible, mais nous pouvons malgré tout y placer des notes pour y rendre la mélodie de notre vie harmonieuse et complète dans le sens du shalom. À l'aube du cataclysme de leur vie, Jésus déclare aux disciples une phrase bien décevante que nous avons lue tout à la fin de notre passage, au verset 31, « Levez-vous, partons d'ici. » Impulsion stimulante ou injonction angoissante, tous les repères des disciples vont voler en éclats dans les heures même qui suivent ce moment. Mais Jésus amorce une dynamique. Ils vont vivre ces déchirements certainement pires que ceux auxquels ils s'attendaient. Mais ils vont se saisir de ce patrimoine divin, cette paix à bâtir, pour accomplir ce que leurs convictions veulent mettre en action avec la présence continue de Dieu à leur côté. Cette paix est également notre appel. Nous vivons une période où nos repères sont bousculés, où nos certitudes sont remises en cause, où notre confiance est érodée. Nous marchons sur des chemins très différents les uns des autres, sur le sable, sur la pierre, dans la boue, dans la jungle. Mais chacun de nos pas peut constituer des jalons de paix. Et chacun de ces jalons de paix est respiration, souffle vital de notre relation à Dieu, de notre considération de nous-mêmes et de notre relation aux autres. Amen.